et qui est à l'écart des grands événements du monde. Et pourtant, eh bien, va avoir un impact sur l'humanité tout entière. Et si nous sommes là aujourd'hui, eh bien, c'est suite à ce qui s'est passé avec Ruth. Alors, la postérité de Ruth, eh bien, de la postérité de Ruth naîtra David, son arrière-petit-fils, et bien sûr de David, de qui descendra le Messie, notre Sauveur Jésus. Le Messie, donc, et la généalogie de Jésus, eh bien, vous la trouvez dans le livre de Matthieu, chapitre 1, où Ruth est mentionnée. Vous trouvez son nom qui est mentionné. Alors, on peut parler dans ce récit de réveil. On peut parler d'un véritable réveil, puisque Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire à partir de quelque chose qui semble complètement mort, sans espoir, en apparence. Et quelque chose d'extraordinaire qui nous a atteint encore aujourd'hui. Alors, le réveil, c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, visiblement. Voilà, avec une grande sono, des éclairages, des vidéos, une grande scène. Non, le réveil, ça se passe, en tout cas dans le cas de Ruth, ça s'est passé dans l'intimité d'une famille et qui a atteint toute l'humanité. Alors le livre, pour situer le livre, il a été écrit vers la fin du règne de David, après ou vers la fin du règne. Et l'action se situe au temps des juges. Au temps des juges, et le livre des juges, dans vos Bibles, il est juste avant le livre de Ruth. Et c'est pas par hasard, puisque effectivement l'action se situe au temps des juges. Et le temps des juges, eh bien, c'est un temps qui est sombre. C'est un temps où les Israélites étaient rebelles à Dieu. Et c'était une période sombre, une période de déchéance morale. Il y a un verset qui résume très bien la situation d'Israël à l'époque, c'est dans Juges, chapitre 21, verset 25. Je vous le cite, Juges 21, 25. « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et nous sommes dans cette époque où chacun fait ce qui lui semble bon. Chacun a sa vérité. Et chacun essaie de cohabiter. On essaie de cohabiter tous ensemble. C'est pas facile, en tout cas. Chacun, parce que chacun fait ce qui lui semble bon. Ce qui lui semble bon personnellement. Et on voit bien que ça marche pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, après les quêtes de Josué, les Israélites ont négligé de prendre possession du pays promis que Dieu avait destiné. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mélangés au peuple païen et à leurs pratiques. Et résultat, eh bien, ça les a fait tomber dans l'idolâtrie. Et résultat, eh bien, Dieu les a livrés entre les mains de leurs ennemis, de ces peuples païens. Il y a ce cycle qu'on retrouve dans le livre des juges. Ils désobéissent, Dieu les a livrés. Ils crient à l'Éternel, qui répond avec ses tripes, pour prendre une façon humaine de parler. Quand on crie à lui, il n'est pas insensible. Et il a répondu en suscitant un juge pour les délivrer. Mais ça n'a pas duré. Ils retombent à nouveau dans l'idolâtrie. Et à nouveau, ils appellent Dieu au secours. Et à nouveau, Dieu leur suscite un juge. On trouve ce cycle-là dans le livre des juges. Et ce livre, il est frappant de voir le contraste entre la fidélité de Dieu et l'infidélité des Israélites. Et comment Dieu vient à leur secours, malgré leur infidélité. Alors, je vous propose de lire, d'aborder le premier chapitre du livre de Ruth. Pour aller s'installer dans un pays, au pays de Moab, qui sont les ennemis d'Israël. Et on peut regarder les prénoms dans ce livre. Les prénoms ont une signification. Élimélec, ça veut dire « l'Éternel est mon roi ». Est-ce que on peut se poser la question, est-ce que l'Éternel a été le roi d'Élimélec? A-t-il vraiment été son roi quand il a quitté son peuple et son héritage? Élimélec va mourir et il va laisser une veuve et deux fils, Machlon et Kishlon. Alors oui, en s'éloignant du peuple de Dieu, on est plus fragile, parce qu'on est plus fort ensemble. Et Pascal, en rappelant la prière sacerdotale de Jésus, eh bien, Jésus a prié pour l'unité de son peuple, et on est plus fort ensemble. Mais en s'éloignant du peuple de Dieu, on devient plus vulnérable, plus fragile. Et aussi, eh bien, parfois même sans s'en rendre compte, le risque de s'éloigner de la loi de Dieu, eh bien, est plus grand. Et en effet, Machlon et Kishlon, eh bien, ils vont épouser deux femmes étrangères. Et par là, ils vont s'éloigner de la loi de Dieu. La loi de Dieu qui, la loi de Moïse interdisait clairement de se marier avec des femmes étrangères. Et inversement, hein. Machlon veut dire malade. Le prénom Machlon veut dire malade. Et Kishlon veut dire qui languit. Ça veut dire aussi destruction. Et c'est de là, Machlon et Kishlon, eh bien, ils portaient bien leur nom. Puisqu'ils sont morts après Élimélec, laissant deux veuves sans enfants. Alors oui, se couper du peuple de Dieu, ça a un coût. Et c'est vrai aussi dans nos églises. Quelqu'un qui est déçu, qui veut vivre sa foi tout seul, encore plus par les temps qui courent, où il y a eu un phénomène d'isolement avec les confinements. Mais gloire à Dieu et grâce à Dieu, il y a eu des outils mis à notre disposition pour garder le contact. Et lorsqu'on a encore l'occasion de se réunir, eh bien, voilà, on est là ce matin, on a saisi ces occasions. Alors, lorsque quelqu'un s'éloigne du peuple de Dieu, il oublie qu'il a besoin de ses frères et sœurs. Et ses frères et sœurs ont besoin de lui ou d'elle. Nous avons besoin les uns des autres. Lorsque quelqu'un choisit de mener sa route seul, il va manquer à l'Église. Et l'Église va lui manquer. Et il est encore temps de revenir, de retourner à l'Église. Et puis, le prix à payer quand on s'éloigne de Dieu, c'est, bien sûr, c'est que le risque de péché devient plus grand, mais c'est aussi que la vision qu'on a de Dieu devient faussée. De se couper du peuple de Dieu, la vision de Dieu devient faussée. Et ça rend comment ? Ça rend confus et amer. Ce qu'était Naomi. Naomi, à l'origine, ça veut dire, le prénom Naomi veut dire douceur. Et voici ce que dira Naomi à son arrivée à Bethléem, hein, à la fin du chapitre. Elle dira, ne m'appelez pas Naomi, douceur, mais appelez-moi Mara. Et Mara, ça veut dire amer. Je relis les versets 20 et 21. Hein. On va y revenir. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? Voilà comment Naomi voyait Dieu. Le mot affligé, j'ai regardé dans le dictionnaire hébreu-français, ça veut dire littéralement faire le mal, ne pas être bon, ça veut dire être méchant. Est-ce que Dieu est comme ça? Mais non. C'est une vision faussée de Dieu qui est, Dieu est tout le contraire. Dieu est bon, il est juste, il est bienveillant, il est lent à la colère. Et il désire le bien de ses enfants. Naomi, elle souffrait. Et quand on souffre, on ne voit plus trop les choses clairement, n'est-ce pas? Naomi, à cause de sa souffrance, elle est dans la confusion. Elle est dans la confusion car elle voit Dieu à la fois comme quelqu'un de bon, parce qu'elle demande que la bonté de Dieu soit sur Orpa et Ruth. Elle voit Dieu comme encore bon, verset 8. Mais elle le voit aussi comme quelqu'un de méchant avec les autres, en l'occurrence méchant avec elle-même. Et remarquez ce qu'elle dit. L'Éternel s'est prononcé contre moi, parce que partie dans l'abondance, elle reviendra veuve et les mains vides. Alors oui, elle a beaucoup perdu, Naomi. Mais est-ce que l'Éternel était vraiment contre elle? Est-ce qu'il vous est arrivé déjà de penser « Dieu est contre moi, je ne comprends plus ce qui se passe. » C'est pas logique. Où es-tu? Mais Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'Éternel s'est prononcé contre moi, dit Naomi. Et regardez comment elle appelle Dieu. Elle appelle Dieu le Tout-Puissant. Dieu le Tout-Puissant s'est prononcé contre moi. Alors Dieu, effectivement, il est Tout-Puissant. Mais de l'appeler comme ça en ces circonstances montre bien toute l'amertume de Naomi. S'il avait voulu, Dieu aurait pu arrêter ce malheur. Dieu est-il contre moi? Et puis viennent les pourquoi. Pourquoi Dieu n'arrête-t-il pas le Covid? Pourquoi Dieu Tout-Puissant permet-il les cancers même chez les jeunes enfants? Quelqu'un m'a posé la question par téléphone il n'y a pas longtemps et j'avais pas de réponse. Et nous avons eu un cas dans notre église d'une enfant de 12 ans qui a été atteinte d'un cancer. Et vous imaginez comment chacun a été ébranlé, à commencer par les parents. Et au bout d'un certain... La fillette a été soumise à des chimiothérapies, très éprouvantes pour toute la famille. Et puis le papa, un soir, il a témoigné, il nous a dit comme ça, qu'il avait cessé de demander pourquoi à Dieu. Mais il demandait comment à Dieu, comment faire face à cette épreuve, à cette situation. Et aujourd'hui, après un long combat dans la prière, la fillette est guérie. Bien sûr, il y a eu un traitement lourd de chimiothérapie, mais la fillette est guérie. Et là, tout récemment, j'ai appris qu'elle a commencé à revenir à l'école 2 jours par semaine. Et vous imaginez la joie des parents. Et toute l'église était mobilisée dans la prière pour cette fillette. Pourquoi on ne savait pas? Pourquoi elle? Mais ça a suscité la mobilisation dans la prière. Et dans l'idée de l'époque, et encore aujourd'hui, si quelqu'un était frappé par le malheur, c'est que Dieu, on pense que Dieu l'a puni à cause de son péché. Alors oui, Dieu punit parfois, mais il est lent à la colère. Il est patient. Et ne confondons pas punition divine et conséquence de nos péchés. Parce que péché, c'est aller à l'encontre des lois de Dieu. Et les lois de Dieu, elles sont éternelles. Et péché, eh bien, il y a des conséquences à plus ou moins long terme. Et je regardais une émission il n'y a pas si longtemps sur la 5, sur les planètes. Et c'était un reportage sur la planète Jupiter. Alors la planète, c'est très loin Jupiter. Mais la planète, elle est soumise aux mêmes lois physiques que notre planète Terre. Les lois de Dieu sont universelles. Mais bien sûr, les conditions ne sont pas les mêmes sur Jupiter que chez nous. Et ils avaient les scientifiques avaient réussi à reproduire en laboratoire une espèce de matière qui ne se produit qu'à une pression énorme qu'on ne trouve pas ici sur Terre. L'hydrogène compressé à très très fortement produit une espèce de matière sombre qui constituerait le noyau de Jupiter. Matière qu'on ne trouve pas ici. Mais cette matière, elle est issue d'une pression énorme sur l'hydrogène. C'est une loi physique. L'univers est soumis à des lois physiques qui sont immuables. Et Dieu a donné aussi des lois morales. Et les transgresser, eh bien, il y a des conséquences. La loi morale dans les 10 commandements. Mais attention, attention au raccourci. S'il a des problèmes, c'est qu'il a péché. Et il y a un exemple dans notre Bible, n'est-ce pas, qui est l'histoire de Job. C'est un exemple. Job, eh bien, les amis de Job n'avaient pas compris que son épreuve, eh bien, c'était un combat dans le ciel. Et ils avaient fait le raccourci que c'était, il avait récolté ce qu'il avait semé, qu'il avait péché. Bien sûr, il est pécheur, mais il aimait Dieu. Et ce qui lui est arrivé n'était pas à cause de son éloignement de Dieu. Il ne comprenait pas la raison de ses épreuves. En regardant de plus près l'histoire de Ruth, Naomi elle s'est quand même coupée de son peuple. Ses fils se sont mariés à des femmes étrangères, ce que la loi de Moïse interdisait. Et l'éloignement, eh bien, ça a eu un coup. C'est vrai que Naomi n'a fait que suivre son mari, Elimelec. Et elle a eu les conséquences, finalement, de l'éloignement de la décision que son mari a prise. Donc, on peut voir quand même des conséquences de son éloignement dans ce qui lui est arrivé. Alors voilà donc, on se retrouve avec 3 veuves qui sont sans ressources, qui sont sans mari pour s'occuper d'elles. Et vient un moment, le moment de la décision, de façon incontournable. L'heure du choix. Et l'heure du choix pour tous, pour toutes. Aussi bien pour Naomi que pour Orpa, que pour Ruth. Elles forment une même famille, sont dans le même bateau, si on peut dire. Vient l'heure du choix. Voyons maintenant l'heure de la décision de revenir. Alors, Naomi a pris la décision de revenir 10 ans après la décision de partir avec son mari. 10 ans se sont écoulés après la décision de partir avec son mari et ses 2 fils. Et donc, Naomi a appris que Dieu avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Et le texte nous dit que Naomi retourna avec Orpa et Ruth, ses deux belles-filles. Elle retourna au verset 6. Et j'ai compté le nombre de fois où dans ce chapitre 1, le verbe retourner figure. Et il figure pas moins de 11 fois dans tout le chapitre 1. Alors ce verbe, il veut dire retourner, il veut dire aussi quitter, il veut dire aussi aller. Et il est utilisé à la fois pour Naomi et pour ses belles-filles. Et si vous voulez les références, c'est au verset 6, au verset 7, 8, 10, 11, 12, deux fois dans le verset 15, verset 16, verset 21 et verset 23. Alors pour l'une, Naomi, il est bien question de retourner. Il est question de retourner vers son peuple, le peuple de Dieu, et de retourner aussi vers Dieu, en qui elle n'a pas cessé de croire. Naomi n'a pas cessé de croire en Dieu. Comme Job, elle a exprimé tout ce qu'il y avait, toute son amertume dans son cœur, mais elle n'a pas cessé de croire en Dieu. Et elle appelle Dieu le Tout-Puissant d'ailleurs. Elle continue de l'appeler. Même si elle dit que c'est lui qui l'a affligée, Naomi n'a pas cessé de croire en Dieu. C'est une chose de dire « le Tout-Puissant m'a affligée » que de dire « Dieu n'existe pas ». C'est une autre chose. On peut tout dire à Dieu, n'est-ce pas ? C'est encore un signe de foi quand on lui exprime notre cœur, l'état de notre cœur. Alors, le même verbe qui est traduit par « retourner » pour Naomi, il veut dire aussi « aller ». Et il est utilisé aussi pour ses deux belles-filles, Orpa et Ruth. Et pour Orpa et Ruth, il est plutôt question d'un départ plutôt que d'un retour. Il s'agit de quitter ce qui leur est familier, leur culture, leur peuple, leur faux Dieu aussi, pour aller vers ce qu'elles ne connaissaient pas, le pays d'Israël, et donc vers le Dieu d'Israël, le vrai Dieu. Et sur le chemin, alors elles sont toutes les trois parties, hein, Naomi, Orpa et Ruth, elles sont parties. Mais sur le chemin, Naomi va tout faire pour dissuader ses deux belles-filles de la suivre. Et elle leur dit, retournez. Mais cette fois, dans le sens de retourner vers leur pays, vers leur culture et vers leur faux Dieu. Et on peut se demander pourquoi cette opposition ? Naomi qui connaît le vrai Dieu, pourquoi est-ce qu'elle veut dissuader ses deux belles-filles de retourner vers leurs idoles ? Pourquoi ? Eh bien, parce que Naomi ne voyait pas d'avenir pour ses deux belles-filles. Parce qu'elle devait certainement connaître cette loi en Deutéronome chapitre 23 verset 3, où c'est clairement dit, je vous cite Deutéronome 23, 3, « L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité. » L'Ammonite et le Moabite étaient les ennemis de Dieu. Hein. Les Moabites avaient refusé le passage aux Israélites sur leur terre. Alors, Naomi va donc tenter de les dissuader, et à la première tentative de dissuasion, les deux belles-filles disent au verset 10, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Elles sont toutes les deux décidées. Et Orpa était aussi décidée. Alors Naomi, elle va venir à la charge. Elle revient à la charge au verset 11. Et cette fois, elle va évoquer la loi du Lévirat en Israël. En Deutéronome chapitre 25, verset 5. Cette loi d'après laquelle la femme qui était restée veuve, sans enfant, devait être épousée par son beau-frère, le frère du défunt. Et le premier enfant né de ce mariage, eh bien, devait porter le nom du défunt mari. C'est ce qu'on appelle ce que la Bible appelle la loi du Lévirat. Mais là, c'est pas possible. Tous sont morts. Tous sont morts et Naomi est trop vieille pour se remarier et avoir des enfants. Donc Naomi dit en substance à Orpa et Ruth, pas de mariage probable en Juda. Retournez. Et là, Naomi va remporter une manche. Puisque c'est Orpa qui va se laisser convaincre devant l'insistance de sa belle-mère. Et après une embrassade, eh bien, Orpa, elle rebrousse chemin. C'est intéressant de voir la signification du prénom Orpa. Orpa, ça veut dire entêtée. C'est pas elle qui sera la plus entêtée. Alors déjà, Naomi, elle est entêtée. Mais Orpa, eh bien, elle, même si son prénom veut dire entêtée, elle a choisi le chemin facile de retourner. Oui, mais vers son peuple, de revenir en arrière finalement, de retourner vers son peuple et vers ses idoles. Pourtant, Orpa avait bien commencé. Et elle avait bien dit avec Ruth, nous irons avec toi vers ton peuple. Orpa aussi était prête à intégrer le peuple de Dieu. Elle fait partie de ceux qui ont bien commencé, mais qui n'ont pas persévéré. Il faut dire que Naomi ne l'a pas aidée. Et certainement qu'un des facteurs qui a découragé Orpa d'aller plus loin, eh bien, c'est d'entendre Naomi lui dire au verset 13, « Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » À cause de vous. Naomi, à cause de sa souffrance, est en train de rejeter la faute de ses malheurs sur Orpa et sur Ruth, oui, qui sont étrangères. Alors oui, Orpa était découragée et elle est repartie. Et nous, Église, ça nous interpelle aussi. Est-ce qu'à notre contact, on donne envie aux non-croyants de croire, d'aller vers Jésus? Est-ce qu'à notre contact, les gens se disent « Oui, j'aimerais connaître ton Dieu ». Est-ce qu'on les y encourage? Par nos paroles, par nos attitudes, et aussi bien sûr une juste vision de qui est Dieu, tel qu'il se révèle dans sa parole. Alors on peut trouver les deux, hein. Certains qui ont intégré le peuple de Dieu, parce que oui, ils ont voulu, en voyant l'unité du peuple de Dieu, eh bien, c'est ça qui effectivement les a décidés, en voyant la joie dans la louange, et le désir de suivre ensemble le Seigneur. C'est ça qui va faire, qui va attirer les non-croyants à venir. Naomi, elle est entêtée, mais il y a plus entêtée qu'elle. Naomi, elle revient à la charge une troisième fois pour convaincre Ruth de faire comme sa belle-sœur. Retourne, verset 15. Et oui, finalement, la plus entêtée, ça sera Ruth. Et là, c'est Naomi qui va se laisser fléchir en voyant sa détermination. Le prénom Ruth, ça veut dire une amie. Et Ruth veut être une amie pour sa belle-mère. Et elle est bien décidée, déterminée à ne pas l'abandonner, malgré les injonctions en apparence bienveillantes de Naomi, sa belle-mère. Naomi s'afflige, Orpa s'en va, mais Ruth, elle va s'attacher, nous dit le verset 14. Ruth va s'attacher. Le verbe veut dire littéralement coller, hein. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que Ruth était Ruth? Une femme aussi déterminée pour faire le choix de rester avec Naomi, malgré toutes les circonstances qui sont contraires, qui semblaient contraires. Eh bien, les versets 16 et 17 vont dévoiler son cœur. Je vais relire les versets 16 et 17. « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Wow. Quelle détermination, hein? Qu'est-ce qui a été le moteur dans sa décision? Je crois qu'on peut dire sans hésiter, c'est son amour pour sa belle-mère. C'est son amour pour sa belle-mère qui l'a, malgré les apparences qui semblaient contraires, c'est son amour pour sa belle-mère au point d'aller contre sa volonté qui l'a motivée à rester. Elle était déterminée, elle était convaincue, Naomi. C'est un bel exemple de quelqu'un de convaincu, hein. Alors qu'elle était même, elle n'était pas juive. Et je connais un homme qui a ses parents âgés de 85 ans. Et ils sont très âgés, ils sont encore chez eux. Et c'est la maman qui s'occupe du papa qui est devenu dépendant. Et la maman, malgré son âge avancé, eh bien, elle fait tout dans la maison. Elle fait le ménage, la cuisine, tout ce qui est administratif, qui est très éprouvant. Et bien sûr, elle s'occupe de son mari, qui est devenu dépendant. Et elle fait office d'infirmière aussi, même si elle n'a pas, bien sûr, la formation d'infirmière. Et elle ne trouvait pas d'infirmière. C'est pourquoi elle fait ces soins-là. Elle faisait, parce que ça a changé depuis. Elle ne trouvait pas d'infirmière en région parisienne. Elle ne trouvait pas une infirmière. Ça semble incroyable. Parce qu'elle avait besoin de quelqu'un à des heures tardives pour faire des soins très spécifiques à son mari. Et Et puis son fils lui a proposé de l'aider. Et elle a répondu gentiment, mais fermement, « Ne t'inquiète pas. » Ça voulait dire « Je gère, ne t'inquiète pas. » Et le fils était rassuré en entendant ça. Il ne voyait plus son âge. « C'est bon, elle gère, pas de souci à avoir. » Elle gère. Jusqu'au jour où, et puis il a vu sa mère déterminée à agir, jusqu'au jour où il a vu sa mère, pas malade, fatiguée, vraiment très fatiguée avec tout son fardeau. Et il est revenu à la charge. Et cette fois, eh bien, il lui a proposé de l'aider à trouver une infirmière, en prenant le téléphone, en prenant Internet. Sa maman a refusé, mais malgré le refus de sa maman, il est revenu à la charge et il a dit « Écoute, je vais quand même le faire. » Et sa détermination a payé. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, depuis peu, il a finalement trouvé une infirmière dont le cabinet est dans la rue des parents, donc pas très loin, donc elle peut venir tard le soir, et qui pratique ce genre de soins, alors que d'autres infirmières ont dit non, on ne pratique pas ce genre de soins. Une infirmière dans la rue, dans la même rue, et qui pratique ce genre de soins. Ce fils, il a désobéi à sa mère, hein, qui était aussi déterminée à ne pas se faire aider, pour ne pas charger sur son fils. Mais qu'est-ce qui a déterminé ce fils à désobéir à sa maman? Son amour pour elle. Son amour pour elle. Et parfois, l'insistance, elle est de mise quand elle est motivée par l'amour, par le bien du prochain, par le bien de son prochain. Et bien sûr, ça commence dans la famille. Alors, la réponse de Ruth à Naomi, non seulement laisse voir son amour, sa loyauté pour Naomi, son attachement pour Naomi, mais aussi son attachement au Dieu de Naomi, qui était aussi le Dieu de son mari. Regardez sa déclaration. « Ton Dieu sera mon Dieu. » Et on peut appeler ça une véritable conversion au vrai Dieu. Une véritable conversion. Et c'est le début d'un réveil. C'est le début d'un véritable réveil qui va se passer là. Ruth, elle a sans doute compris la supériorité du vrai Dieu qu'adore Naomi sur celui qu'adorait Moab. Et puis Ruth, elle a aussi partagé la vie d'une famille juive pendant 10 ans. Elle a vu vivre une famille juive avec leur rite. Et avec leur... voilà, on peut supposer que Naomi et Elimelech étaient proches de la parole et lisaient et la lisaient, surtout en étant loin. Alors elle a compris que le vrai Dieu, eh bien, c'était celui qu'adorait Elimelech et Naomi, même s'ils n'étaient pas parfaits. Et puis aussi... Ruth a entendu Naomi lui parler avec bonté au verset 8. « Que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Naomi a parlé de la bonté de Dieu à Ruth et Ruth l'a vécu. Alors finalement, on peut dire que c'est la bonté de Dieu qui a changé Ruth, qui est devenue elle-même pleine de bonté pour Naomi, sa belle-mère. Et là encore, eh bien, comment est-ce que les non-croyants vont être touchés en nous voyant manifester la bonté et l'amour de Dieu? Lorsque le peuple de Dieu, donc nous, l'Église, nous vivons notre foi et nous la manifestons par notre amour du prochain, en manifestant la bonté de Dieu, Dieu qui est bon, devant les non-croyants, ils vont être touchés. Surtout par les temps qui courent, où beaucoup sont dans la détresse. Hein. Vous avez qu'à, je pense que vous avez, si vous allumez les informations... Beaucoup de commerces ont peur de mettre la clé sous la porte avec les confinements successifs. Et nous sommes dans un temps où c'est un temps où les gens vont être en recherche. Et est-ce qu'on sera au rendez-vous justement pour pointer, pour les diriger vers Dieu? Alors voilà, Ruth, elle était déterminée à ce que le peuple de Naomi soit aussi son peuple et son Dieu soit aussi son Dieu, selon le verset 16. Et vous avez remarqué sa détermination, au verset 17, elle fait même une imprécation sur elle-même. Que si elle quittait Naomi, elle a pris l'Éternel à témoin, eh bien, voilà, que Dieu la traite dans toute sa rigueur, si elle quittait Naomi autrement que par la mort, qu'en mourant. Et ça montre bien que Dieu était déjà devenu son Dieu, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Elle parlait de Dieu comme son Dieu. Elle était convertie, Ruth. Et Dieu ne repousse pas quelqu'un qui veut s'attacher fermement à lui, quel que soit son arrière-plan, quelle que soit sa culture, même s'il fait partie d'un peuple qui a persécuté les chrétiens, Dieu ne repousse pas quelqu'un qui veut s'attacher fermement à lui. C'était le cas de Ruth. Et la parole le dit très bien en Ésaïe, chapitre 56, verset 3. Je vous cite le début du verset 3. « Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple ». Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple ». Et le Nouveau Testament dira encore plus clairement que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est aussi le Dieu de tous ceux qui placent leur confiance en lui. Ruth, elle voulait, elle était déterminée, elle était convaincue, elle voulait faire partie du peuple de Dieu. Et quand on veut, on peut. Et Dieu va répondre à sa détermination et à sa loyauté, malgré toutes les circonstances défavorables. Ruth, elle avait déjà une foi personnelle. Elle ne connaissait pas le vrai Dieu comme les Juifs, comme Naomi. Mais déjà, elle était déterminée. Tout semblait contraire. Toutes les circonstances semblaient contraires. Mais Ruth ne le savait pas encore, mais Dieu allait se révéler à elle. Et on l'a lu tout à l'heure dans Jean 17, Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Et Dieu veut se faire connaître à chacun d'entre nous. Et encore mieux, de plus en plus à nous, son Église. Eh bien, Dieu allait se faire connaître progressivement à Ruth, dans sa providence et dans sa provision. On verra cet après-midi la providence de Dieu au chapitre 2 et comment Dieu allait se faire connaître à Ruth. Dieu voulait se faire connaître à Ruth, elle qui n'était qu'une étrangère, insignifiante, mais qui avait tout quitté, qui avait laissé derrière elle ce qui lui était familier, sa famille, sans regarder en arrière, ne sachant pas ce qui sera devant, même si le chemin ne sera pas facile. Pas d'homme pour s'occuper d'elle. Et de Naomi. Ça fait deux personnes, deux bouches à nourrir. Mais elle a fait confiance à Dieu. Ruth ne savait pas où elle allait. Elle ne connaissait pas ce pays. Et dans ce sens, elle a suivi les traces d'Abraham. Abraham est parti sans savoir où il allait. Abraham, c'était un homme de foi. Et Ruth, quelle femme de foi. Elle a suivi les traces d'Abraham. Alors, elle, une étrangère, Ruth ne retournait pas en Israël, comme Naomi, mais on peut quand même parler de retour pour Ruth. Parce qu'il s'agissait d'un retour au seul vrai Dieu, que Dieu attend de tout un chacun dans ce monde. Ruth était en train de revenir, oui, à Dieu. Et là, eh bien, quand quelqu'un cherche Dieu, Dieu se laisse trouver. Et Dieu, elle ne le savait pas encore, il va la bénir en retour et il fera d'elle une source de bénédiction. Donc il va la bénir et quand on est béni, c'est pas pour soi uniquement, ça rejaillit sur les autres, ça déborde. Les bénédictions, c'est pas fait pour être enfermé. Eh bien, Dieu va faire d'elle une source de bénédiction, non seulement pour Israël, mais pour l'humanité tout entière. Non seulement pour les hommes, mais pour les femmes. Et le chapitre 1 se termine par cette touche d'espoir. Par ce verset, elles arrivèrent à Bethléem, la maison du pain, au commencement de la moisson des orges. Le printemps. La moisson des orges, elle a lieu en avril, vers fin mars, début avril. Et la moisson des orges, cette expression, ça sonne comme un nouveau commencement. Celui de Pâques. Pâques a été institué au mois d'avril, en Deutéronome 16, hein. Eh bien, dans sa grâce, Dieu va transformer ce triste retour en heureux retour qu'il avait déjà commencé par la conversion de Ruth et le retour à Dieu de Naomi. Et on peut dire que Ruth était les prémices de la conversion des païens à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est issu de la lignée de David, David, l'arrière-petit-fils de Ruth. Ruth était les prémices de la conversion des païens à Jésus-Christ. Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix pour les péchés du monde entier, pour les tiens, pour les miens, et Jésus qui est ressuscité au matin de Pâques pour notre justification. et par qui nous pouvons être pardonnés. Je vais prier. Seigneur Jésus, merci de nous avoir laissé ces récits, Seigneur, qui témoignent de ce que tu fais, Seigneur, quand tout semble sans espoir, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu de l'espérance, Seigneur. C'est vrai que nous, parfois, de façon bien humaine, on essaye de trouver des solutions par nous-mêmes. Mais lorsque, Seigneur, on ne voit plus de logique, lorsqu'on n'arrive pas à trouver des explications, que peut-on faire d'autre, Seigneur, que nous confier en toi, dans ta grâce, dans ta providence, et de continuer de te faire confiance parce que tu es fidèle, Seigneur. Alors, donne à ton Église, à nous, ton Église, de te rester fidèle en toutes circonstances, Seigneur. Pardonne nos infidélités, Seigneur, et je prie que, Seigneur, oui, tu fasses brûler en nous cette flamme de faire partie de ton peuple, de t'adorer, Seigneur, et que le monde le voit, que le monde voit, Seigneur, ton Église, et te voit dans ton Église, Seigneur, pour que d'autres encore, Seigneur, te croient en toi et placent leur confiance en toi. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.